Voilà, ça marche. Donc, je disais, je suis heureux de faire votre connaissance, même si pour le moment c'est une petite case, comme moi je suis à une petite case, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion de vous. Vous êtes nombreux, 18 personnes actuellement. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, présents. C'est pas évident de suivre un cours de sacramentaire le mardi soir de 20h à 22h. Donc, vous avez beaucoup de mérite. Voilà. Donc, un petit mot de présentation pour que vous puissiez me connaître, mais nous aurons l'occasion de nous connaître au moins pendant 3 mois, n'est-ce pas? Et donc, je m'appelle Isaïe Agazzola, et comme le dit le nom, mais aussi l'accent que vous entendez sûrement, je suis italien d'origine. Donc, ma région d'origine, c'est le Piémont. Je suis né à Turin. Et donc, je suis arrivé en France pour rentrer au monastère. Je suis pour chercher la vie monastique. Et je suis rentré au monastère de Lérins. Vous voyez où c'est Lérins? C'est une petite. Il y a deux îles en face de Cannes, dont l'une des deux îles est une île monastique. Elle s'appelle l'île Saint-Honorat. Et cette île, donc, est l'un des plus anciens sites monastique que l'on connaisse actuellement, au moins en Occident. Je dis toujours avec beaucoup de chauvinisme que la présence monastique à Lérins est plus ancienne de la présence monastique au Mont Athos, vous voyez, parce que le Mont Athos a commencé seulement vers le 9e siècle, si je ne m'abuse pas. Donc voilà, un site monastique dans lequel, un monastère dans lequel j'étais formé comme moine, initié, comme on dit chez nous, à la vie monastique. Et puis, comment ça se fait que je me retrouve au CIF? Tout simplement parce que mon abbé, mon monastère est un monastère cistercien, donc de la tradition de Cîteaux. La règle bénédictine est appliquée ou mise en œuvre par la fondation de Cîteaux. Eh bien, mon père abbé de l'époque m'a envoyé à faire des études à Paris. Et donc, j'ai été envoyé à Paris, à l'Institut catholique de Paris, à la faculté de théologie, où j'étais censé surtout me former à la liturgie. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'intérieur de la faculté de théologie, il y a un institut qui s'appelle Institut supérieur de liturgie, qui forme, qui donne une formation de deuxième cycle pour approfondir cet aspect de la théologie, donc la liturgie et les sacrements. Donc, j'étais formé à l'Institut catholique vers les années 90, et puis on m'a rappelé à Paris pour enseigner dans les années 2000. Voilà, donc à partir des 2003-2004, je suis de manière quasi stable ici à la faculté de théologie, et mes domaines d'enseignement et de recherche, plutôt d'enseignement, sont donc la liturgie, comme je viens de dire, mais liée à la liturgie, la théologie sacramentaire, notamment la théologie sacramentaire des sacrements de l'initiation chrétienne et du baptême. Quoi encore? Oui, les traditions liturgiques des églises orientales, des églises chrétiennes orientales, et puis une attention plus grande donnée aussi à l'écuménisme, notamment au dialogue écuménique, à partir naturellement de la liturgie, des sacrements. En effet, par exemple, ce deuxième semestre, je partage avec le CIF, je donne un cours le matin qui s'intitule Les sacrements dans le débat œcuménique. Et donc, je donne ce cours avec deux autres collègues, un protestant, un orthodoxe, où nous présentons les différentes manières d'appréhender la vie sacramentelle dans nos églises différentes. Pourquoi je vous raconte ça? Ce n'est pas pour vous étaler mes savoirs et mes capacités, je n'ai aucune intention, mais plutôt pour vous dire que ces compétences, je voudrais les mettre un peu à les partager avec vous. Et donc, le cours sera attentif. Bien sûr, le cours est un cours de les sacrements à partir de la théologie de l'Église catholique romaine. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est très important d'ouvrir, d'être attentif aussi à penser les sacrements à partir de la manière dont les autres églises les vivent. Hein. Et donc, je n'hésiterai pas parfois à établir des passerelles avec, par exemple, le monde orthodoxe ou le monde protestant, hein, de manière à que on puisse effectivement prendre conscience que de la richesse de la vie sacramentelle et de la manière dont nous pouvons nous-mêmes comprendre les sacrements aujourd'hui. Je dis toujours, parfois, dans notre propre théologie, la théologie catholique de l'Église catholique romaine, on se trouve en face d'impasses. J'en donne un exemple. Justement, je vous plonge dans le bain de la théologie sacramentelle. Par exemple, vous le savez, une des questions épineuses actuelles, il y en a plusieurs aujourd'hui dans notre Église, mais l'une d'entre elles est par exemple celle de la manière de réintégrer ou d'intégrer les divorcés et mariés. Peuvent-ils communier, ne peuvent-ils pas communier? Et si nous restons dans une théologie catholique telle que nous l'avons reçue, stricte et datée peut-être aussi, nous savons que les réponses sont très étroites. C'est très difficile de trouver des issues. Par contre, si nous regardons du côté des autres églises, nous voyons que les pratiques par rapport à cette question du divorce, par exemple, ouvrent des possibilités à ceux qui vivent cette souffrance d'un divorce. Et il y a une possibilité dans d'autres églises d'intégrer les divorcés qui se remarient. Hein. Bon, nous parlerons de cela encore plus tard, mais c'était pour vous donner un exemple, hein, un exemple. Ou encore un autre exemple. J'espère de ne pas vous assommer d'emblée en vous présentant les questions, mais ce sont des questions actuelles. Par exemple, nous savons que les coutumes de l'Église catholique romaine ont conduit à considérer que les prêtres ne peuvent pas se marier. Aujourd'hui, probablement, l'évolution des ministères, l'évolution de la société interroge l'Église catholique romaine s'il faut encore poursuivre cette coutume. J'insiste beaucoup sur cela. C'est une coutume, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose qui a trait à la doctrine. C'est plutôt de l'ordre de la coutume. Alors, si je regarde les autres églises, je vois que dans les églises orthodoxes, un homme marié peut être ordonné prêtre, diacre et puis prêtre, et dans le monde protestant, c'est encore plus évident cela. Et même dans le monde protestant, on peut se rendre compte que le ministère n'est pas réservé au mâle, aux hommes, mais est ouvert aussi au ministère féminin, donc à la place des femmes dans les ministères. Vous voyez, toutes ces questions, c'est juste des exemples sur lesquels nous reviendrons. Toutes ces questions font que c'est parfois, même souvent, très important d'être attentif à d'autres situations dans les églises chrétiennes qui nous permettent de voir comment on peut penser à la sacramentalité ou non. Et donc, nous allons effectivement parcourir, suivre pendant au moins 3 mois un parcours que je vais vous proposer. Alors, j'espère maintenant de réussir à partager l'écran. Sinon, je vous dirai quelle feuille vous devez prendre. Ah non, peut-être que j'y arrive. Est-ce que vous voyez là un tableau? Vous le voyez?
Oui.
Oui.
C'est parfait. Alors, du coup, je suis très fier de moi-même. J'ai réussi à cliquer sur un bouton qui a fonctionné. Donc là, je vous ai mis tout simplement le plan du cours hein, pour que vous le voyez. Vous pouvez aussi l'avoir sous les yeux et le noter si vous voulez ajouter. Je voudrais parcourir ce plan général du cours. Je vous fais remarquer que si vous avez envie de m'écrire, pas tout le temps, mais de temps en temps, pour poser des questions plus précises que vous n'avez pas eu l'occasion de me poser pendant le cours. Vous pouvez, j'ai mis l'adresse ici, et donc vous pouvez m'écrire sans problème. Et donc, par exemple, vous dites, ah, je n'ai pas compris une chose, je n'ai pas eu le temps de vous le dire pendant le cours, ou bien j'aimerais bien que vous parliez d'un aspect que vous n'avez pas traité. Donc, du coup, ça me permet de cours en cours, de me préparer et de pouvoir vous répondre, d'honorer vos questions ou vos remarques. Bon, alors je reprends le plan. Je le disais aussi cet après-midi à vos camarades de cours que comme dans une agence de voyage, il est bien de savoir où on va. Et donc, je fais l'agence de voyage et je vous montre où je vous amène. Voilà, donc où le cours va nous amener. Tout d'abord, vous le voyez, donc d'abord, prenez conscience, nous commençons aujourd'hui, le 10 janvier, nous terminerons le 28 mars. Donc, nous passons ensemble 3 mois, ce qui est déjà très important, et nous allons parcourir l'ensemble de la structure des sacrements, de la manière dont les sacrements se présentent. Et nous commençons ce soir tout simplement par nous poser une question. Qu'est-ce qu'un sacrement? Nous partons de vraiment des fondements les plus simples, même si c'est pas si simple que ça, mais je vais essayer de vous introduire sur la manière dont on peut appréhender un sacrement, la vie sacramentelle. Et donc nous verrons même sûrement d'où vient ce mot, à quoi il fait référence, comment on peut l'interpréter, comment nous le pouvons appréhender aujourd'hui, où il trouve ses racines, où il se situe du point de vue de l'histoire du salut, de l'événement du Christ, de l'Église, de nous-mêmes, du cosmos. Donc, voyez, on regardera vraiment cela comme une sorte de fondation du cours. Et puis, vous le voyez dans le plan, nous commençons à prendre en compte les sacrements, l'un après l'autre, tels qu'ils apparaissent ou tels qu'ils sont nommés dans les listes des sacrements retenues par un concile, un grand concile de l'Église latine, catholique, romaine, qui est le concile de Trente. Le concile de Trente au XVIe siècle, c'est ce concile-là qui acte le fait qu'il y ait 7 sacrements. Le concile de Trente va acter cette délimitation. Nous verrons pourquoi on peut parler de délimitation de 7 sacrements que je vais vous déployer en montrant le plan de notre cours. Alors, il y en a un que vous ne connaissez pas, disons, qu'il est difficile de comprendre. Quand je dis l'initiation chrétienne, il ne fait pas partie des listes des sacrements, selon Trente. Mais le mot initiation chrétienne est comme une boîte de Pandore, il faut l'ouvrir, c'est une notion qui recouvre ou appréhende trois sacrements ensemble. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Donc ce sont, quand je les sors de la boîte de Pandore, donc je vais nommer baptême, confirmation, Eucharistie, ce sont les trois premiers sacrements de cette fameuse liste retenue par le Concile de Trente. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer que si nous y réfléchissons déjà de manière rapide pour les caractériser, généralement, ces trois sacrements, ce sont, même pas généralement, sûrement, tout le temps, ces trois sacrements, ce sont les premiers que l'on reçoit. Hein? On ne peut pas, par exemple, recevoir, célébrer le mariage si on n'a pas été baptisé. On ne peut pas être ordonné prêtre ou diacre si on n'a pas été baptisé et confirmé. Donc, vous voyez, il y a ces trois sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, fondent l'entrée dans le corps ecclésial et dans la vie chrétienne. Quelqu'un réagissait là à l'instant.
Oui, parce que souvent, on demande le sacrement de réconciliation pour pouvoir faire sa première communion. Donc, il y a aussi...
Alors là, c'est une question, je dirais, pastorale. Hein, mais la réconciliation, effectivement, du moment où la communion passe devant la première communion passe devant la confirmation, souvent on a l'habitude de faire célébrer le sacrement de réconciliation aux enfants qui s'approchent de la communion. Mais je dirais, permettez-moi, puis je m'en expliquerai, mais pour le moment, sachez que cela est quand même un accident dans la compréhension des sacrements. Hein? Pourquoi? Je vous le dis très rapidement. Parce que la réconciliation, en effet, ne fait que rétablir la grâce baptismale, hein? Et la grâce de cette initiation à la foi qui commence par le baptême et termine par l'Eucharistie. Nous y reviendrons sur ça. Et donc, si, et nous verrons aussi pourquoi on a fait parfait, et encore aujourd'hui, on fait passer la première communion avant la confirmation, bien c'est pour des raisons tout à fait parfois pratiques, pastorales, mais pas théologiques. Ça, c'est très important à souligner. Hein? Pourquoi ? Je vais aussi vous donner une autre perception de ces trois sacrements qui fondent la vie chrétienne. Je vous fais remarquer que, et vous le savez, vous en avez l'expérience, baptême et confirmation, vous l'avez reçu une fois dans la vie, n'est-ce pas? Par contre, vous participez à l'Eucharistie depuis votre première communion. Et donc, l'Eucharistie, la participation à l'Eucharistie est réitérée autant que l'on veut et l'on peut, autant que l'Église le célèbre, tout au long de la vie. C'est là l'erreur théologique, de faire d'un sacrement qui est réitéré tout le temps un sacrement qui précède un sacrement qui est donné qu'une fois dans la vie, vous voyez, qui est la confirmation, et qui est plutôt lié au baptême. Mais j'y reviendrai. Je vous laisse dans le climat de Agatha Christie, et vous en saurez davantage sur l'assassin la prochaine fois. Les prochaines fois. Mais retenez déjà ça, il y a un ordre des sacrements. S'il y a cet ordre, même dans la liste des sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, c'est qu'il y a une raison théologique, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ces trois sacrements sont tellement importants, ce sont les fondements de la vie chrétienne, que, justement, j'ouvre à la question œcuménique, ce sont les sacrements, généralement, qui sont retenus par toutes les confessions chrétiennes. Hein? Vous savez qu'il y a, depuis au moins le Concile Vatican II, c'est depuis que l'Église catholique s'est ouverte, pas seulement l'Église catholique, mais entre autres, l'Église catholique s'est ouverte aux autres églises et vice-versa, les autres églises sont ouvertes aux autres églises respectives. Mais vous savez qu'il y a des accords œcuméniques qui comment dire, établissent que le baptême reçu dans l'Église est valable aussi pour l'autre Église. Donc ces trois sacrements sont reconnus comme tels, comme ayant une consistance sacramentelle, et chez les protestants, et chez les orthodoxes, et chez les catholiques, naturellement. Bon, on pourrait, et on en reparlera, peut-être qu'il y a parfois des nuances de perception, notamment pour l'Eucharistie, la dimension de l'Eucharistie, notamment chez les protestants, peut-être avec une coloration différente de celle que nous appréhendons. Mais sinon, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les églises chrétiennes célèbrent ces sacrements-là, ou ces gestes sacramentels. Sans vous compliquer les affaires, sachez que quand on parle de théologie avec les autres théologiens des autres églises, bon, un protestant peut-être va employer moins le mot sacrement. Il emploiera peut-être le mot signe, signe sacramentel ou signe de la grâce, vous voyez. Sacrement, ils sont un peu réticents parce que ça a une coloration très catholique. Alors, il y a parfois voilà, une retenue par rapport à ça. Mais n'importe, au-delà des mots, sachez que ces trois sacrements fondent pas seulement la vie chrétienne, mais fondent aussi, je dirais déjà, l'unité des églises. Voilà, on peut dire que nous reconnaissons le baptême célébré par les protestants, le baptême célébré par les orthodoxes, la scène célébrée par les protestants, la scène célébrée par les orthodoxes. Pour la confirmation, c'est un peu plus différent. Naturellement, les orthodoxes la retiennent, quand ils la rapprochent justement très près du baptême. Et les protestants, par contre, parfois, ils la considèrent plutôt comme une profession, comme celle que nous appelons la profession de foi, plutôt que comme un sacrement isolé. Donc, trois sacrements dont, je vous disais, le sommet, l'achèvement de cette initiation est l'Eucharistie. L'achèvement est l'Eucharistie. L'Eucharistie, à nouveau, que je vous proposerai de penser justement comme ce que j'appelle, qu'on pourrait appeler l'horizon de l'initiation, l'horizon de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'Eucharistie ne doit pas être prise en compte pour elle-même, mais comme étant le sacrement qui achève la vie chrétienne. Et le mot « achever la vie chrétienne » peut avoir plusieurs significations. J'en retiens justement deux. L'une, je dirais justement, dans le processus d'initiation, c'est l'Eucharistie qui termine l'initiation à la vie chrétienne, commencée par le baptême, continuée par la confirmation et achevée par l'Eucharistie. Mais aussi parce que l'Eucharistie, du moment où elle est vécue et célébrée pendant toute la vie chrétienne, elle achève notre manière de devenir chrétien. Elle nous fait grandir, voilà. Elle nous fait grandir dans la vie chrétienne. Elle est donc extrêmement importante. Vous savez que le Concile Vatican II a pu définir l'Eucharistie avec cette expression source et sommet. Source et sommet. C'est à la fois la source de la vie de l'Église et le sommet de l'initiation. Voilà. Donc, il y a là quelque chose d'important à retenir, surtout que l'Eucharistie, tous les sacrements font mémoire du mystère pascal, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ, mais en particulier, l'Eucharistie est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, tel que le Christ nous l'a transmise lors de la dernière scène. Donc, Eucharistie, toujours à penser je dirais, comment vous expliquer, dans l'orbite du baptême. Hein, c'est parce que nous sommes baptisés que nous pouvons participer à l'Eucharistie. Hein, vous avez remarqué aussi cela, hein, personne ne peut communier s'il n'a pas été baptisé. Hein, donc il y a quelque chose qui donne à penser. Donc, Eucharistie qui achève, Eucharistie qui entretient la vie chrétienne, Eucharistie qui fait mémoire de la grâce baptismale. Je dis toujours, il faudrait presque, même sans le presque, il faudrait qu'à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de notre baptême. Nous nous rappelions que nous pouvons participer à l'Eucharistie parce que nous avons été baptisés, parce que nous avons été immergés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Donc l'Eucharistie est comme cette nourriture qui nous est donnée pour marcher, cheminer dans le chemin de la vie chrétienne commencé par le baptême. L'autre sacrement, le sacrement qui suit ces fondements de la vie chrétienne, c'est la réconciliation. Alors, on l'appelle le sacrement de réconciliation et de pénitence, ou encore, ceux de mon âge le connaissaient comme la confession. La confession. Alors, vous vous rappelez aussi, au moins en français, mais en italien, je ne connaissais pas ce dicton, mais on va à la communion après confesse, n'est-ce pas? On disait en gros comme ça. Hein. Donc, vous voyez qu'on a toujours lié la confession ou la réconciliation, comme le concile. Nous verrons pourquoi on a redécouvert cette notion de réconciliation. On l'a toujours rapproché à l'Eucharistie. Et encore aujourd'hui, nous le rapprochons assez souvent à l'Eucharistie. Nous verrons que ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complètement vrai. Parce que la réconciliation, quand on regarde de près la manière dont elle s'est manifestée, elle a évolué, eh bien la réconciliation est plutôt liée au baptême. On a commencé à réconcilier les pénitents, si je peux dire, dans l'Église ancienne, parce que justement, ils avaient perdu la grâce baptismale pour différentes raisons, généralement pour des péchés graves. Et donc, l'Église ancienne, déjà au IVe siècle, invente un chemin de pénitence pour réconcilier ces personnes. Nous y reviendrons pour la question de l'évolution. Mais retenez cela, une fois de plus, le sacrement de réconciliation ou de pénitence est toujours à penser du côté du baptême parce qu'il renouvelle la grâce baptismale, donc la grâce reçue au baptême. Le sacrement de réconciliation nous met à nouveau en communion avec Dieu et avec l'Église. Et quand je dis l'Église, les frères, les sœurs, le groupe que nous avons pu blesser. Et donc, il nous reconstitue un corps ecclésial et il nous permet effectivement de participer à l'Eucharistie. C'est en ce sens-là que souvent on se dit il est lié à l'Eucharistie. Mais avant d'être lié à l'Eucharistie, il est lié au baptême plus particulièrement. Vacances d'hiver n'est pas un sacrement. Vacances d'hiver et une pause. Donc je vous mets, c'est pour cela que je l'ai mis en vert, hein, pour vous rappeler que voilà, c'est pas un sacrement, c'est pas dans les listes du Concile de Trente. Mais c'était pour vous rappeler que nous ferons une pause. C'est pas plus mal parce que vous voyez, nous aurons achevé cette première partie avec tous les sacrements qui tournent autour de l'orbite, qui tournent autour du baptême, de la confirmation de l'Eucharistie. Donc, du coup, les sacrements qui sont les sacrements d'initiation, de l'initiation. Mais après les vacances d'hiver, donc, nous allons prendre en compte ce que j'appellerais des sacrements qui signifie l'engagement baptismal dans une situation ou une autre. Parfois un engagement, comme l'ordre et le mariage, parfois un état dans la vie, qui est l'onction des malades, c'est-à-dire être malade n'est pas une, heureusement, pas quelque chose que l'on vit tout le temps. Ça peut arriver dans la vie qu'on tombe malade. Et donc, vous voyez, ce sont des sacrements qui marquent des situations, des engagements, ordre et mariage, ou des situations dans la vie, l'onction des malades. Alors, tout d'abord, l'ordre, tel qu'il apparaît dans les listes des sacrements, l'ordre, à nouveau, c'est comme pour l'initiation chrétienne, une boîte à Pandore, parce que derrière le mot ordre, derrière la notion de sacrement de l'ordre, il y a trois ministères. Le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat. Donc, vous voyez bien que là, nous avons ensemble la triade qui a été retenue depuis, on pourrait dire, le troisième, voire deuxième, à partir du deuxième siècle. Quelqu'un comme Ignace d'Antioche, le grand père de l'Église, évêque d'Antioche, un des premiers, avait déjà fait allusion, avait déjà employé cette triade diacre, presbytre, évêque. Eh bien, l'ordre comprend ces trois dimensions. Alors,
mais oui, j'essaie de le régler.
Effectivement, n'hésitez pas à couper les micros, si vous pouvez. Voilà. Donc, je disais l'ordre, qui, dans la nouveau, on peut faire un petit trait d'union, pas trait d'union, un petit excursus par rapport à la pratique des autres églises. Le sacrement de l'ordre, naturellement, on en a parlé tout à l'heure avec un exemple rapide. Dans la tradition théologique et dans la mise en œuvre de l'Église catholique romaine, l'ordre, notamment le presbytérat, et en conséquence l'épiscopat, est réservé à des hommes non mariés. Donc, on accède au presbytérat si on est célibataire. Pour le diaconat, le Concile Vatican II a ouvert à la possibilité qu'il y ait des hommes mariés qui sont diacres. Voilà. Déjà, vous avez entendu, première caractéristique, donc réservée pour le presbytérat et l'épiscopat à des hommes célibataires. Deuxième caractéristique, vous l'avez entendu, des hommes. Donc, l'ordre, que ce soit le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat, est réservé à des hommes. Quand nous regardons chez les autres églises, les églises orthodoxes, on peut remarquer que depuis le début de l'Église, on pourrait dire, chez les orthodoxes, un homme marié peut être ordonné prêtre, donc peut devenir presbytre, donc peut à la fois vivre le sacrement du mariage, d'abord de presbytérat et puis de mariage et puis de presbytérat. Avec la précaution, pourquoi je me suis brouillé les affaires, c'est parce que on ne peut pas, comment dire, on est ordonné dans l'état dans lequel on est. Si on est ordonné en étant célibataire, on restera célibataire. Si on est ordonné en étant marié, on garde, donc on est des mariés qui exercent le presbytérat. Chez les protestants, c'est encore plus, je dirais, plus caractérisé cela. Donc, l'ordre n'est pas réservé, le pastorat, le fait d'être devenu pasteur, n'est pas réservé à des célibataires, encore que même dans les églises protestantes, dans les communautés protestantes, on peut rester célibataire tout en étant pasteur. C'est pas un empêchement, je veux dire. Et en même temps, vous le savez, vous l'avez remarqué, les femmes aussi peuvent accéder au pastorat, donc peuvent exercer la charge de pasteur. Donc vous voyez, la manière dont le sacrement de l'ordre est vécu dans l'Église catholique est tout à fait propre à l'Église catholique. Il me semble qu'aujourd'hui, on s'interroge beaucoup, plus que dans le passé, sur deux questions. L'une, je dirais, de manière moins importante, qui est celle justement moins importante, elle est moins prise en compte, je dirais, même si on s'interroge, sur le célibat des prêtres. Donc, faut-il garder cette coutume du célibat des prêtres? Généralement, tous les papes successifs ont toujours dit que cela serait resté dans l'Église catholique. Mais il y a comme une perception du côté des peuples de Dieu et parfois des théologiens aussi, il y a des interrogations sur la possibilité ou non de garder cette coutume. L'autre question qui est plus discutée aujourd'hui, c'est la place des femmes dans les ministères. Donc, quelle est la place que les femmes peuvent avoir dans les ministères? Et nous parlerons, entre autres, de ce qui a été décidé par le pape, par la volonté du pape François il y a 2 ans désormais, c'est-à-dire la possibilité d'instituer, je dis bien instituer, pas ordonner, mais d'instituer des femmes au ministère d'acolyte et de lectrice, donc à l'acolyta et au lectorat. J'ai bien dit instituer, qui n'est pas simplement demander à quelqu'un « est-ce que vous voudriez bien lire à la messe ?» Instituer quelqu'un veut dire célébrer une liturgie qui, par cette liturgie, institue quelqu'un à exercer un ministère précis dans l'Église. La lecture pendant la liturgie ou la distribution de la communion, toujours pendant la messe. Et l'autre aspect que le pape François a mis en œuvre, a voulu qu'il soit fait, c'est l'institution de catéchistes. Vous me direz, mais il y a toujours eu des catéchistes laïcs. Mais les catéchistes laïcs ont été toujours, bien sûr, il y en a toujours eu, grâce à Dieu, mais ont toujours été, si je peux dire, des bénévoles, quelqu'un qui participait à la vie de mission de l'Église ou des paroisses. Là, le pape demande que ces catéchistes soient institués, donc que ce soit une institution qui marque leur vie et qui caractérise leur vie. Donc, vous voyez, je pense personnellement, notre Église avance lentement sur ces questions-là, mais je pense que cela est assez prometteur d'une évolution de la prise en compte des ministères laïcs, et donc pas nécessairement ordonnés dans l'Église catholique. Et naturellement, l'ouverture à ces institutions de lecteurs, d'acolytes, de catéchistes pourra probablement faire prendre conscience de l'importance des ministères, élargir la vision des ministères. Je reviendrai sur d'autres aspects qui montrent cet élargissement.
S'il vous plaît, les ministères sont-ils toujours à vie?
Les ministères ordonnés sont toujours à vie, oui. C'est-à-dire, un prêtre restera prêtre jusqu'à sa mort, un évêque aussi, un diacre aussi. Après, naturellement, la vie fera que peut-être un prêtre pourra exercer jusqu'à un certain âge. Pour les évêques, on demande qu'ils soient évêques jusqu'à 75 ans.
Et les gens institués?
Et les gens institués, là aussi, ça dépendra de leur état, de leur possibilité, mais en général, c'est une institution qui dure toute la vie, effectivement. Nous creuserons cette question de plus près quand nous parlerons de l'ordre.
Et à propos des institutions et de l'ordre, y a-t-il quelque chose de spécial pour justement dans les monastères, que ce soit de femmes ou d'hommes?
Alors, oui, cela me permet de vous faire remarquer que justement, dans les sept sacrements, il n'y a pas la profession religieuse, c'est-à-dire, par exemple, la profession de moine ou la profession d'une religieuse, hein, il n'est pas dans les sacrements. Il n'est pas considéré comme un sacrement. C'est plutôt de l'ordre d'une promesse, de vœux que l'on prononce. Voyez? L'Église catholique n'a pas retenu cet aspect-là de la vie chrétienne, parce qu'il en est un, mais comme un sacrement. On pourrait se demander pourquoi, on pourra en parler plus tard. Mais pour répondre à votre question, dans un monastère, on rentre au monastère, je parle bien de moine, hein, on rentre au monastère pour être moine. Et on ne peut pas être d'abord prêtre et puis moine. Il faut d'abord devenir moine. Et c'est si l'abbé décide que l'un ou l'autre soit ordonné prêtre, il peut être ordonné prêtre. Voilà. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce ne caractérise pas la vie monastique, le fait d'être presbytre. Hein? C'est un service en plus pour la communauté.
Merci.
Et oui.
Les diacres mariés, on les appelle les diacres permanents.
Oui.
Ceux qui ne sont pas mariés, on les appelle comment?
Celles qui, on les appelle toujours diacres permanents, parce qu'aujourd'hui, même un diacre célibataire sera qui veut et qui est appelé à ce ministère-là, sera appelé diacre permanent. Je connais des diacres permanents qui sont restés célibataires. Voilà. Mais on les appellera aussi diacres permanents.
Merci, Père.
Voilà.
Frère.
Bon, je vous fais remarquer, j'ouvre une parenthèse parce qu'on m'a posé la question, mais vous voyez bien que l'expression diacre permanent est un peu curieuse. Alors, pourquoi on dit pas prêtre permanent? C'est la même chose.
Fait, ne sont pas mariés.
Voilà, exact. C'est toute la question d'être marié ou non marié qui a conduit à cette expression de permanent. Vous voyez? Mais c'est pas dans la tradition, généralement on dit diacre, voilà. Puis parfois on peut être ordonné prêtre, parfois non. Mais là, mais no, dans le monde catholique, tout ça a été quelque part informé par la question qu'il fallait bien distinguer entre ceux qui étaient mariés et ceux qui ne l'étaient pas. Voilà, parce qu'il y a des diacres, par exemple, pris parmi les séminaristes, qui vont vers le sacerdoce, donc ils ne sont pas des diacres permanents, c'est juste un passage vers le sacerdoce, alors qu'il y en a des diacres qui, puisqu'ils sont mariés, restent diacres de manière permanente. Voilà.
Merci.
L'autre état de vie qui est marqué par un sacrement est le mariage. Et le mariage. Le mariage qui, comme vous le savez, célèbre l'union entre deux personnes, un homme, une femme, et qui, comment dire, considère qu'effectivement cette union, elle reflète ou doit signifier le mystère de l'union entre, dirait Saint Paul, entre l'Église et le Christ, n'est-ce pas? Donc, il signifie quelque chose de cette manière-là, où l'amour de Dieu manifesté par la vie d'un couple qui vit cela. Le grand théologien catholique que vous connaissez peut-être, ou par l'avoir lu, ou pour l'avoir rencontré, Louis-Marie Chauvet, qui est donc un sacramentologue, comme on dit, c'est quelqu'un qui travaille la théologie des sacrements, qui a travaillé toute sa vie, qui était mon enseignant à l'Institut catholique de Paris, et qui m'a dénoncé au CIF. Donc c'est à cause de lui que je suis au CIF. Lui, il disait, avait eu cette idée géniale, montrant que, soulignant que Le mariage, paradoxalement, a été retenu dans la liste des sept sacrements plutôt que la profession religieuse, justement. On aurait tendance à dire, tiens, la profession religieuse est plus importante que le mariage. Eh bien non, c'est le mariage, parce que c'est la condition des gens, la plupart des gens. Je vous fais remarquer que le célibat pour le royaume de Dieu, dirait l'Évangile, est une exception, ce n'est pas la règle. Le mariage, par contre, c'est une condition que tous peuvent partager. Hein? Le fait de ne pas se marier, c'est un choix. C'est de l'ordre d'un don, d'un charisme, vous voyez. Et donc, la vie religieuse, j'essaie de me faire comprendre, ne structure pas l'Église, dit la Constitution sur l'Église. Hein? Mais il la fait vivre par son don, par le don qu'elle a. La vie religieuse. Par contre, le mariage, puisque fait partie de ce que la plupart des personnes vivent, c'est le fait de s'unir à une autre personne pour manifester l'affection, l'amour, la famille, le foyer, bien cela est devenu, a été retenu comme étant effectivement un sacrement à part entière. Hein, à part entière. Je vous fais aussi remarquer que le mariage, plus que les autres sacrements, consacre aussi la beauté de la sexualité. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose aussi à réfléchir. Les sacrements n'escamotent pas tout ce qui est consistance humaine, nous le verrons, aspect anthropologique, structure des personnes, et donc du vivre tout simple, voilà. Donc, ordre et mariage, il faut vraiment les considérer ensemble au sens que ce sont des choix différents, mais qui manifestent une manière d'être chrétien et de vivre la vie baptismale. Et enfin, septième des sacrements, l'onction des malades. À nouveau, vous l'avez remarqué, ceux qui ont mon âge, savent qu'on l'appelait autrefois l'extrême onction. C'était terrible, la définition de ce sacrement, parce qu'on disait c'est la dernière onction. Par contre, nous le verrons, le Concile Vatican II, en renouvelant le rituel de l'onction des malades, a voulu faire comprendre que cette onction est destinée à tous ceux qui vivent l'épreuve ou l'état de la maladie au cours de leur vie. Donc, je dirais que l'onction des malades peut être destinée à quelqu'un qui, dont naturellement la maladie est extrême ou est tout à fait grave, mais à n'importe quel âge peut être donnée dans la mesure où cette maladie conduit ou risque de conduire à la mort, comme un soutien, comme une consolation, comme voilà, une aide pour pouvoir dépasser l'angoisse, la lourdeur, la gravité de cet état. Ce qui est intéressant, je vous le fais remarquer, que par rapport aux autres sacrements, l'onction des malades est comme le baptême et la confirmation de l'Eucharistie, est peut-être l'un des sacrements les plus anciens. Hein. Saint Jacques, déjà dans sa lettre, parle de l'onction des malades, hein, alors que, vous voyez bien, la réconciliation et le mariage, par exemple, sont des sacrements plus récents. Quand je dis plus récents, sachez que je veux dire, ils commencent à apparaître comme étant des sacrements, comme définis comme des sacrements, seulement au XIIe, XIIIe siècle. Il faut donc attendre l'époque de la théologie scolastique pour pouvoir les considérer comme à vrai titre des sacrements. L'ordre, par contre, fait partie de cette mise en œuvre sacramentelle qui structure l'Église depuis le IIIe à IVe siècle. Donc, du coup, on le connaît depuis cette époque. Donc, vous voyez bien, si je fais sortir de la boîte de Pandore, baptême, confirmation et Eucharistie, et j'ajoute les autres sacrements, comme je vous disais, ça fait 7 sacrements. La définition, disons, le fait de délimiter à 7 sacrements l'ensemble des sacrements, là, à nouveau, nous devons, je vous l'avais dit tout au début, c'était un processus lent pour reconnaître cette délimitation, mais c'est le Concile de Trente qui va achever ou qui va délimiter sept sacrements. Ça veut dire que, si je dis bien délimiter les 7 sacrements, ça veut dire que parfois, au cours du premier millénaire, on pouvait effectivement considérer qu'il y avait parfois 4 sacrements, parfois 10, parfois 12. Mais il n'y avait pas vraiment un nombre précis. Nous reviendrons sur cette question de délimitation ou distension ou élargissement du nombre des sacrements. Quand on regarde à nouveau l'idée des nombres des sacrements par rapport aux autres confessions chrétiennes, on peut se rendre compte, je vous le fais remarquer, que généralement l'idée de 7 sacrements est retenue par le monde, par les églises orthodoxes, de manière officielle, je dirais, parce que la théologie catholique a influencé à un moment donné la théologie sacramentaire des églises orthodoxes, mais que généralement, pour eux, la notion de sacrement ou de sacramentalité dépasse les 7 sacrements. J'en donne un exemple, un peu pour vous faire comprendre que pour eux, peut avoir une valeur sacramentelle forte. Par exemple, la vénération des icônes. Pour les orthodoxes, elle est extrêmement importante. Elle a une dimension quasi sacramentelle, vous voyez? Et il y a d'autres aspects de la liturgie qui peuvent avoir une dimension sacramentelle. Par contre, les protestants, justement, retiennent comme sacrement, généralement, baptême, scène, la scène du Seigneur, parfois la confession, la réconciliation, pas toutes les obédiences protestantes ou les traditions protestantes. Ça dépend des différentes traditions protestantes. Mais voilà, la confirmation est moins considérée comme un sacrement que comme ça pourrait correspondre à ce que nous appelons la profession de foi. Vous voyez, quelque chose qui marque l'adhésion au baptême à un moment donné de la vie. Les autres sacrements, ce que nous considérons comme sacrement, l'ordre, le mariage, le chemin malade, ne sont pas considérés comme des sacrements par les protestants. Et je termine par le jeu où est l'erreur. Naturellement, vous me direz, les funérailles ne sont pas un sacrement, ce qui est vrai. Ils ne sont pas un sacrement, vous le remarquez pourquoi, vous pouvez même y répondre, tout simplement parce que si vous considérez les autres sacrements, tous les autres sacrements sont destinés à des personnes vivantes. C'est des personnes qui peuvent interagir par rapport à cette proposition de la grâce qui leur est faite, ou pour être baptisé, ou pour être confirmé, ou pour recevoir l'Eucharistie, ou pour accéder à la réconciliation, ou pour être appelé à l'ordre, ou pour vivre le mariage, ou pour recevoir l'onction des malades. Par contre, les funérailles, c'est une liturgie qui, célèbre, met devant Dieu le baptisé qui est désormais défunt, hein, donc qui a passé de cette vie à une autre vie. Mais pourquoi je l'ai mis ici? Pourquoi je vous propose de réfléchir aux funérailles? Tout d'abord parce que vos camarades, les camarades qui vous ont précédé dans le cours du CIF, il y a quelques années, m'avaient demandé de traiter des funérailles. Et j'ai trouvé l'idée très bonne dans la mesure où les funérailles ont une dimension sacramentelle très importante. Très importante. Et donc, ne fût-ce par le fait que, par exemple, célèbre le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ, le défunt ne fait que imiter le Christ qui est enseveli, hein, dans sa condition d'ensevelissement. Les funérailles commencent par des notes baptismales très fortes, le cierge pascal, la vénération du corps du défunt, ainsi de suite. Et puis célèbre cette attente de la résurrection. Et donc, première perception, c'est qu'ils sont comme un condensé dans la célébration des funérailles des autres sacrements. Et en même temps, les funérailles sont intéressantes comme lieu d'observation, parce que dans les funérailles, vous le savez comme mieux que moi, de plus en plus pour les funérailles, les laïcs sont demandés pour pouvoir officier aux funérailles. On confie la célébration des funérailles à des laïcs. Hein. Donc, on peut voir une évolution des ministères dans l'Église. Et enfin, vous savez aussi que les funérailles, autant que le baptême ou le mariage parfois, ce sont des moments de passage dans la vie, des lieux de passage, hein, des rites de passage, on les nomme comme ça, les anthropologues les appellent les rites de passage, qui, permettent de devenir des lieux d'évangélisation très forts. Au cours des obsèques d'une personne défunte, souvent, on peut accueillir dans l'église qui célèbre les funérailles des personnes qui viennent de tout horizon et qui, effectivement, peuvent être évangélisées, pas de manière agressive, mais parce que simplement, ils voient des signes chrétiens, ils entendent la parole de Dieu, ils entendent la prédication. Donc, peuvent être un lieu de nouvelle évangélisation, d'évangélisation renouvelée, paradoxalement dans un lieu qui est le lieu un des célébrations les plus graves et les plus extrêmes. Voilà. Voilà un peu le parcours que nous voulons faire.
Excusez-moi.
Oui.
Pour recevoir le baptême, il faut la présence de l'eau. Il faut l'eau pour baptiser. Mais oui. Est-ce que le lavement des pieds, c'est un sacrement?
Alors,
le lavement des pieds, on trempe dans...
Le lavement des pieds, effectivement, il y a de l'eau, naturellement, comme le dit le geste. Mais le lavement des pieds a été toujours retenu par la tradition comme... On va reprendre cette idée-là, et si je l'oublie, vous me le rappelez après la pause, comme un sacramental. Vous entendez la différence entre sacrement et sacramental. Alors, j'essaie de m'expliquer. Ce sont les théologiens de l'époque médiévale qui font cette distinction et ils disent ceci. Les sacrements, et donc les sept sacrements, apportent le salut, apportent réellement le salut dans une situation ou l'autre, manifeste le salut. Les autres signes sacramentels, on pourrait dire l'eau bénite, le signe de croix, la bénédiction d'une maison, ou encore le lavement des pieds, justement, sont plutôt de l'ordre d'un sacramental. C'est-à-dire, ils ne sont pas fondamentaux pour obtenir ce salut, pour vivre ce salut, pour vivre de la grâce de Dieu. Voyez, c'est ça la différence. Et donc, votre question est intéressante parce que, effectivement, au premier millénaire de l'Église, on pouvait trouver le lavement des pieds parmi les listes des sacrements. Mais on a retenu que ce n'était pas fondamental par rapport aux autres que l'on vient de nommer.
Merci beaucoup, Père.
Oui. Oui, donc je vous disais, vous avez là l'ensemble de « nous voulons aller », comment on y va? Quelle est la méthode que je vais vous proposer? Alors, selon ma propre formation, Je vous proposerai pour chaque sacrement de le traiter en deux moments précis. Un premier moment, nous allons regarder l'histoire. Comment le sacrement que nous célébrons aujourd'hui, donc celle que je viens de nommer, sont devenus tels, hein? Parce que naturellement, avant que l'Eucharistie devienne l'Eucharistie, la messe que nous connaissons, il a fallu du temps. Ou avant que le mariage devienne mariage, il a fallu du temps. Et donc, nous allons avoir d'abord un regard historique au sens de l'évolution du sacrement, comment cela s'est mis en place. Donc, une première partie. Et une deuxième partie, nous allons prendre en compte la théologie du sacrement, mais la théologie pas de manière intellectuelle ou comment dire trop rationnelle, mais à partir de la pratique du sacrement. Et donc nous allons nous référer au rituel des sacrements. Donc par exemple pour le baptême, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, ou le baptême des petits-enfants, pour la confirmation, le rituel de la confirmation, pour l'Eucharistie, quelques aspects du missel romain, pour la réconciliation, le rituel de la réconciliation, pour l'ordre, le rituel de l'ordre, pour le mariage, le rituel du mariage, et pour l'onction des malades, le rituel de l'onction des malades, et pour les funérailles, le rituel des obsèques. On rentre dans le rituel, et on regarde ensemble ce que disent ce qu'on appelle les notes doctrinales et pastorales du rituel et la manière dont advient la célébration, pour que nous puissions y tirer une conscience, une prise de conscience, une connaissance de ce qu'est ce sacrement du point de vue théologique. Et pour ce faire, je vous demanderai aussi votre collaboration, c'est-à-dire n'hésitez pas au cours de l'exposé que je peux faire, de me renvoyer à vos pratiques, comme vous venez de le faire, hein, à vos pratiques pastorales, en paroisse, dans vos communautés religieuses, là où vous êtes, par rapport au sacrement, à votre lieu de vie, par rapport au sacrement. C'est le vécu aussi pastoral qui est très important pour pouvoir comprendre les sacrements aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire en cette première heure de cours. Est-ce qu'il y aurait, avant la pause, l'une ou l'autre question ou remarque? Voilà, simplement, pour ne pas vous laisser dans votre faim. Vous êtes conscient où vous allez, donc. C'est parfait. Et donc, je vous propose, là c'est 21h04, de nous retrouver vers 21h15. Ça y est, on reprend à 21h15, hein, donc pour poursuivre le cours dans la deuxième partie. À tout à l'heure. Merci.
Merci.
À tout à l'heure.
Merci.
Coupez les micros si vous pouvez pendant la pause parce que l'enregistrement continue à enregistrer. Merci.
meeting is being recorded.
Voilà, est-ce que vous êtes là? Vous êtes bien là?
Oui, merci.
Voilà. Parfait.
Oui, on
parfait.
Est là.
Vous ne pouvez plus vous réactiver.
C'est parfait.
Parfait.
Oui,
réactiver.
C'est bon.
Je suis présent.
C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va continuer notre parcours. Et il y avait une question là. Quelqu'un qui m'a posé une question? Deux même. Quelqu'un pose des questions, je vois des mains levées ou des... Non, ça marche, non, c'est bon.
Non, c'était juste pour vous dire qu'on écoutait, on était là.
Ah, c'est parfait, c'est parfait. Je vais partager à nouveau l'écran, voilà. Voilà. Il y a l'autre document que je vous avais distribué, que vous avez distribué, et qui veut juste résumer, c'est une sorte de canevas de ce que je vais vous dire, pour que vous reteniez les idées fondamentales. Et donc, je commencerai par cette affirmation que je voudrais un peu, qui me permettra de vous faire part de ce que veulent dire ces mots-là. Tout d'abord, que les sacrements sont au cœur de la liturgie. Cette affirmation montre bien que c'est comme si les sacrements étaient à l'intérieur d'une action qu'on appelle la liturgie. Et donc, je voudrais juste faire une petite remarque sur l'expression. D'où vient le mot liturgie, d'où vient le mot sacrement, pour que nous puissions nous entendre. Nous allons employer tout le temps désormais le mot liturgie, célébration, sacrement, mystère, sacramental, il est venu, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, tout d'abord, le mot liturgie. Le mot liturgie que nous employons couramment dans la théologie catholique, mais pas seulement catholique, vient d'un mot grec, est en vérité un mot grec, qui comporte, selon le génie de la langue grecque, deux mots. Laos, voyez, et urgia. Laos et urgia. Urgia, ça vous dit quelque chose. Laos peut être moins connu, mais urgia, on le retrouve dans pas mal de mots. Par exemple, chirurgie, urgie, et qui veut dire action. C'est une action. Et laos veut dire peuple. Et donc, ce mot, leiturgeia en grec, liturgie, qui donne le mot français liturgie, voulait dire dans la civilisation, dans la langue grecque pré-chrétienne, c'est-à-dire avant que les chrétiens apparaissent, était un mot qu'on employait généralement pour dire un travail, une action, travail commun dans une ville donnée, donc comme une action civile. Quels pouvaient être ces travaux communs? Pouvait être, par exemple, affréter un bateau pour la ville, ou bien encore préparer, du point de vue du spectacle et de tout ce qui comportait un spectacle, ou une tragédie, voilà. Tout le peuple participait à cette préparation. Ou encore, ça pouvait être un travail pour le bien commun de la ville, nettoyer la rue ou les caniveaux, voilà. Il y avait une action commune du peuple. Et donc, les chrétiens, notamment, on trouve ce mot dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul, l'appréhendent, pas tout de suite pour le connoter vis-à-vis du culte, encore que ça deviendra cela, mais tout d'abord pour parler justement de la participation du peuple de Dieu, de communautés chrétiennes, au culte qui est donné à Dieu. Donc le mot veut dire cela, l'action du peuple de Dieu pour donner culte, ou pour le dire autrement, le culte, et cette action du peuple qui s'adresse à Dieu, voyez. Donc ça va prendre une connotation plutôt spirituelle, rituelle, du coup. Le mot sacrement, par contre, dont nous parlerons assez souvent, tel que nous l'entendons, vient d'un mot latin qui est sacramentum, c'est pas trop compliqué. Et lui-même, un peu comme le mot grec, se compose de deux mots, vous le voyez là-dedans, sacramentum, du mot latin sacer, sacré, et du mot, de l'autre mot toujours latin, juramentum, serment. Et lorsque je dois traduire le mot sacramentum, qui donne le mot sacrement en français, ce serait serment sacré. Alors, attention au son. Donc, serment sacré. D'où vient ce mot? Si vous pouvez couper le micro, puis l'ouvrir seulement quand vous devez intervenir, simplement pour qu'il n'y ait pas d'arsène. Alors, je reprends, donc le mot sacramentum latin l'a inventé un auteur chrétien qui s'appelle Tertullien. Tertullien, auteur il faut situer entre le deuxième et le troisième, à cheval entre le deuxième et le troisième siècle. Tertullien est un auteur chrétien de l'Afrique du Nord, de Carthage. Il était originaire de la ville de Carthage. Et c'est le premier à employer le mot latin sacramentum pour parler du baptême. Quand il doit définir le sacrement des chrétiens, le baptême, il va dire « c'est un sacramentum ». Et ce n'est pas par hasard que Tertullien prend ce mot, parce qu'il le tire lui-même, c'est-à-dire il le prend, ce mot, de la pratique que l'on avait notamment dans le monde militaire, quand il fallait faire serment au général, quand on s'engageait dans l'armée, il fallait faire un serment au général, et donc on disait, il a fait un sacramentum, il a prononcé un serment pour soutenir et se battre pour le général, un général donné. Et donc Tertullien prend ce mot pour définir les sacrements chrétiens, les gestes fondamentaux de la vie chrétienne, comme le baptême, parfois comme l'Eucharistie. Donc pour lui, le baptême est un serment que l'on fait devant Dieu. Donc, et nous verrons de quelle manière on peut considérer cela comme un serment dans la suite de notre cours. Mais il ne faut pas oublier que sacramentum ne faisait que traduire cet autre mot grec, mysterion, qui se traduit en français, c'est pas trop difficile, mystère. Le mot grec mystère, donc, était un mot employé à nouveau par généralement la philosophie grecque, parfois les usages religieux grecs, et avait toujours une connotation un peu secrète, comme le dit le mot mystère. Mais Paul, saint Paul, dans ses lettres, va lui donner une connotation chrétienne, une signification chrétienne. Il dit, et je cite de mémoire, il dit à peu près ceci, le mystère qui était caché, donc il reprend l'idée des Grecs, qui était caché depuis les origines en Dieu, et le dessein que Dieu avait sur le monde était caché, a été révélé par le Christ. Et le Christ le révèle, le donne par l'Église. Et donc, effectivement, le mot mysterion en grec, dans la partie orientale du christianisme, est devenu le mot pour parler, pour définir les sacrements. Généralement, on parlait du mysterion comme justement la célébration du sacrement, parfois au pluriel, mysteria, pour parler de l'Eucharistie. On pouvait appeler l'Eucharistie les mystères. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les premières générations chrétiennes, notamment un auteur latin du 5e siècle qui était évêque à Rome, Léon le Grand, avait eu une trouvaille très intéressante pour nous aussi, pour comprendre les sacrements, avait eu cette formule que je vous donne là. Il avait dit ceci dans une de ses homélies. Toutes les actions de la vie du Christ, tous les actes de la vie du Christ, dit-il, sont passés dans les sacrements ou dans les mystères de l'Église. Et donc, toutes les actions, les actes de la vie du Christ sont passés dans les mystères ou les sacrements. Pour dire qu'effectivement, les sacrements, là, nous pouvons en tirer les conséquences, pour ces auteurs-là des premiers siècles chrétiens, les sacrements avaient cette valeur de remémorer, refaire le mémorial des actions de salut du Christ. Je vous ai indiqué, j'avais pas pu le faire auparavant, mais le mot sacramental, on y reviendra tout à l'heure quand nous parlerons du reste. Mais vous voyez que les théologiens catholiques, à un moment, distinguent latin entre sacrement et sacramental. Vous avez toujours la même racine, mais qui ne dit pas exactement la même chose, et nous verrons de quelle manière. Mais je reviens donc, quand on dit que les sacrements sont au cœur de la liturgie, c'est que nous célébrons la liturgie, généralement, qui est beaucoup plus large que les sacrements. Et pourtant, les sacrements sont vraiment au cœur de la liturgie. Pourquoi? Parce qu'ils constituent les célébrations liturgiques fondamentales de l'Église. Je vous fais remarquer que, peut-être mis à part, mais encore que, aujourd'hui le rituel le permet, mis à part l'onction des malades, mais souvent les malades peuvent avoir des célébrations de l'onction des malades dans l'Église, mais généralement tous les sacrements se célèbrent à l'Église. Donc, sont marqués par ce passage à l'Église, par cette célébration dans l'Église, qui n'est pas qu'un passage physique, est un passage aussi, je dirais, théologique, qui dit bien le fait que ces sacrements sont célébrés par et dans l'Église. Quand je dis Église, vous venez d'un cours d'ecclésiologie, je dis bien le corps ecclésial, je ne pense pas simplement le bâtiment. Le bâtiment ne fait que signifier le corps ecclésial. Et donc, toute liturgie, telle que nous venons de l'entendre de Léon le Grand, toute liturgie est sacramentelle, a une dimension sacramentelle, dans la mesure où elle est en relation avec le mystère pascal. Une autre notion peut-être que vous connaissez, mais que je ravive à votre mémoire, mystère pascal est une expression qu'on emploie pour dire le mystère du don que le Christ fait de sa vie. Et bien sûr, on y met en premier lieu sa mort et sa résurrection, mais on peut bien l'élargir, ce mystère, ce don de la vie. Il commence, ce don de la vie, par l'incarnation. Nous venons de faire mémoire de la naissance du Christ, de l'incarnation du Verbe au milieu des siens. Donc, ce don de la vie commence par l'incarnation, passe par la mort et la résurrection, mais il va continuer jusqu'à la parousie, jusqu'au retour dans la gloire du Christ. Donc, le mystère pascal est beaucoup plus ample que le seul mystère pascal. Généralement, pensons toujours que les sacrements nous font passer par la Pâque du Christ. Voilà. D'où je voudrais à nouveau commenter une sorte d'introduction, pour faire comprendre qu'on peut, dans l'histoire de la théologie des sacrements, on a pu délimiter ou étendre le concept de sacrement tel que nous venons de le nommer. Et après vous avoir dit cela, nous verrons comment cela, on peut percevoir l'évolution de la dynamique sacramentelle à partir de l'histoire du salut qui voit son sommet dans l'avènement du Christ, qui se poursuit dans l'Église, qui est présente dans la vie de chaque homme et chaque femme en tant que créature, dans le cosmos, et ainsi de suite. Donc d'abord, la délimitation et l'extension du concept de sacrement. En effet, il y a une richesse de dimensions dans les sacrements. Les sacrements ne sont pas qu'un acte. Les sacrements débordent l'acte même de la célébration des sacrements. Moi, je donne un exemple tout petit et j'espère parlant. Quand on dit « on célèbre le baptême », mais le baptême comporte à la fois le geste de plonger quelqu'un dans l'eau ou de l'asperger d'eau. Mais l'eau nous rappelle le cosmos, mais les paroles qui accompagnent le geste baptismal, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », rappellent l'action de Dieu et la grâce de Dieu et la vie trinitaire, la vie de l'Esprit, ce qui amène l'enfant ou l'adulte au baptistère rappelle la génération humaine. Oui, il y a plusieurs dimensions dans les sacrements. Et donc, on peut distinguer entre le sacrement à proprement parler et la sacramentalité qui découle du sacrement. Vous voyez, le sacrement, comment on pourrait le définir? On pourrait le définir comme le moment où l'on célèbre le sacrement. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, et les autres sacrements. Il y a un moment précis où on le célèbre, un jour, dans un lieu précis. Mais il y a aussi, et à cela à quoi nous rend attentif la théologie catholique actuelle, il y a quelque chose qui précède le sacrement et qui le poursuit. Je dis toujours, par exemple, quand nous participons à l'Eucharistie, quand nous allons à la messe, et que l'on nous dit « Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu », eh bien, la messe n'est pas finie, justement. L'Eucharistie continue dans la vie. Et quand je me rends à l'Eucharistie, j'amène à l'Eucharistie toute ma vie. J'apporte à l'Eucharistie toute ma vie. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui réfracte du sacrement lui-même. Une autre idée qui me semble parlante est celle à laquelle nous a invité le pape Benoît XVI quand il était jeune théologien et qui s'appelait encore Joseph Ratzinger. Nous avait rendu attentif par une étude très importante et remarqué que disait ceci: le baptême, bien sûr, est célébré à un moment précis, est célébré parce que le baptisé renonce à Satan, adhère au Christ, fait sa profession de foi et il est plongé dans l'eau et sur lui sont prononcés les noms de la Trinité. Mais il dit, mais pourtant, tout ce qui précède le baptême, notamment pour des adultes, je pense aux adultes là, réfracte de ce moment-là. Et donc, il arrive même à dire le catéchuménat, c'est-à-dire le fait d'être catéchumène en train d'accéder au baptême, a une dimension sacramentelle. Parce que n'est rien d'autre qu'un développement, c'est-à-dire il permet ce temps d'initier à la foi de l'Église, à la foi que le baptisé va proclamer au moment du baptême. Voyez. Donc, c'est en ce sens-là qu'il faut distinguer entre sacrement et sacramentalité et faire attention parce que aujourd'hui, justement, on tient bien les deux, mais on est très attentif à la sacramentalité, tout simplement parce que souvent, les gens vivent d'une sacramentalité inconsciente, mais ils n'ont pas accédé ou n'accèdent pas encore au sacrement. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, on peut constater dans l'histoire de la théologie des sacrements une évolution du mot sacrement. Vers le XIIe, XIIIe siècle, à l'époque que l'on appelle celle, donc XIIe et XIIIe siècle, celle de la théologie scolastique, hein, vous voyez bien le mot scolastique dit « école », ce n'est rien d'autre que le nom des universités, notamment à Paris, dans lesquelles les grands théologiens comme Albert le Grand, Thomas d'Aquin, enseignaient dans l'université. Eh bien, cette théologie, le projet de cette théologie est de prendre en compte, de définir le sacrement. Et donc, on délimite ce mot et l'action de ce sacrement, et on va tenir compte de l'importance du sacrement en tant que pouvant être efficace, parce que le geste a été bien posé, les paroles qui accompagnent le geste bien prononcé et parce qu'il y a une efficacité de cela. Aujourd'hui, peut-être, la théologie, tout en tenant compte de cela, c'est-à-dire du moment sacrement, nous rend attentifs justement à tout ce qui entoure le sacrement, ce qui, comme nous le disions, le précède ou le poursuit. Et donc, effectivement, la théologie aujourd'hui a plutôt tendance à élargir les limites de la sacramentalité. Les limites de la sacramentalité. Je vous donne un exemple, parce que me semble important pour que vous compreniez quel est mon propos. Je tiens cette anecdote d'un théologien catholique qui est aussi prêtre et qui dit ceci: souvent je peux avoir les demandes, parfois je peux recevoir des couples qui demandent le baptême pour leur enfant et qui me disent « nous ne sommes pas vraiment très pratiquants ou à peu près pratiquants, mais nous voulons demander que notre enfant soit baptisé parce que grand-mère y tenait tant. Grand-mère y tenait tant. » Et alors, lui, il dit « face à une demande comme celle-ci, je dis oui. Commençons à nous préparer pour le baptême de votre enfant. » Alors que probablement, du point de vue pastoral, il y aura peut-être des curés et des prêtres qui diront « Non, vous ne pratiquez pas trop, votre enfant ne peut pas être baptisé. » Comment il justifie le fait de pouvoir accueillir cette demande? Parce qu'il dit « S'ils sont venus demander le baptême, c'est que la grâce est en train déjà d'agir. » Ne fût-ce que par la grammaire. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose là de la grâce qui agit. Et donc, celui qui a inventé cette expression, il faut détendre la sacramentalité. Il faut la détendre, pas trop la concentrer, mais voir que la grâce agit beaucoup plus grand. Elle est plus grande que les normes ou les lois. Pape François pourrait faire l'écho de ça en disant que l'Église n'est pas un tribunal, mais un hôpital de campagne, vous voyez. C'est en ce sens-là qu'on peut l'appréhender, cette idée-là. D'où ce parcours auquel je vous invite rapidement, mais dont vous devez surtout comprendre la dynamique. Tout d'abord, les sacrements qui n'existaient pas naturellement avant le Christ, les sacrements en tant que tels. Mais, comment dire, on peut y repérer la dynamique des sacrements dans l'histoire du salut. L'expression « histoire du salut » aussi vient de la théologie. Ça veut dire que l'histoire de l'humanité est une histoire sainte, où Dieu a voulu qu'elle soit sainte. Nous en avons un récit, je dis bien, nous en avons un récit dans la Bible, dans le Premier Testament, n'est-ce pas? Depuis la Genèse jusqu'au livre des prophètes, et puis, bon, avec l'arrivée du Christ, le Nouveau Testament. Mais restons simplement dans la première alliance, dans le Premier Testament. Et en effet, on peut repérer que toute l'histoire du salut a une structure sacramentelle. Qu'est-ce que j'entends par structure sacramentelle? C'est que Dieu, dès le début, s'est adressé à l'humanité, s'est adressé à sa créature. Si vous avez le temps, relisez les premières pages de la Genèse. Comme un récit, ne cherchez pas des réponses scientifiques à la Genèse, mais plutôt comme un récit, comme un poème. Et vous verrez que Dieu s'adresse à l'homme et que la première parole qui lui adresse, c'est pour le mettre dans le jardin, et il cherche l'homme même après cette histoire de l'arbre et du fruit de l'arbre, mais il le cherche. Où es-tu, Adam? Ainsi de suite, il adresse des paroles tout au long du récit du Premier Testament. Et donc, Quand on dit structure sacramentelle, c'est qu'il y a une adresse et une réponse. Voilà. Donc il y a là, il y a une parole qui, justement, est accompagnée de signes. Pensez aux grands signes de l'Ancien Testament, du Premier Testament, le passage de la mer Rouge, le déluge, l'arc de l'Alliance qui apparaît après le déluge, le passage du Jourdain, l'entrée dans la terre promise, l'émergence des rois d'Israël, ainsi de suite. Ce sont des signes qui accompagnent la parole, une parole d'alliance de la part de Dieu. Et aussi l'Histoire sainte se structure autour de deux moments essentiels, la création et l'incarnation. Création, c'est par la parole que Dieu crée l'univers, nous dit l'Écriture, et l'incarnation est le signe par excellence de la présence de Dieu au milieu des siens. Je vous rappelle, nous l'avons entendu à cette période de Noël, l'annonce de l'ange la nuit de la naissance de Jésus, et bien celle-ci, je vous annonce une grande joie, vous trouverez dans la crèche un signe, un enfant couché dans une crèche. Donc, du coup, il y a l'idée du signe par l'incarnation. Donc, on voit bien que dans cette histoire sainte ou du salut, il y a comme la volonté, et là je reprends l'expression du grand théologien Karl Rahner, il y a la volonté d'une autocommunication de Dieu. Dieu se autocommunique lui-même. On dirait presque que l'amour de Dieu est ce débordement de communication. Et cela dans l'histoire. Et donc, dans cette histoire, le centre et le sommet est bien le Christ. On pourrait presque faire un graphique, montrer comment tous ces signes du Premier Testament convergent vers le Christ et qu'à partir du Christ, ils s'élargissent à toute l'humanité. Alors, quand je dis toute l'humanité, on pourrait s'interroger si les autres religions non chrétiennes sont à leur manière aussi appelées à ce salut. À leur manière, je dis bien. C'est toute la question de la théologie des religions, mais ça, c'est un autre discours. Et donc, vous voyez bien que les sacrements, ce que nous célébrons, nous, les chrétiens, récapitulent la structure fondamentale de l'histoire du salut. Pourquoi ? Parce qu'ils comportent une corrélation de paroles et signes qui est dans la continuité du dialogue entre Dieu et l'homme. Je vous fais remarquer que dans tout sacrement, il est toujours question de dialogue. Il est toujours question de dialogue. On ne reçoit pas de manière passive un sacrement. C'est toujours dans la liberté de la personne que l'on reçoit un sacrement. Aucun oui qu'on célèbre un sacrement. Donc on disait le Christ centre et sommet. Et donc, le Christ devient, on pourrait le définir comme ça, le sacrement primordial. C'est lui le premier sacrement. C'est lui qui fait le pont, qui permet la médiation entre l'humanité et Dieu lui-même. En ce sens, les sacrements sont une confession permanente de l'Église. Quand l'Église célèbre les sacrements, elle confesse que ce sacrement s'appuie, se fonde sur le Christ, sur le Verbe incarné. Pourquoi ? Parce que les sacrements qui donnent le salut sont effectivement l'expression de l'amour et de la grâce de Dieu que le Christ a rendu visible. Là encore, si vous parcourez, et nous l'entendons ce jour-ci dans la lecture de la messe, dans les évangiles de la messe, les premières actions du Christ adulte après son passage au désert, quand il commence sa vie qu'on appelle active, n'est pas tellement celle de prêcher, ou pas seulement celle de prêcher, Mais c'est surtout celle de guérir, d'agir, d'enlever les maladies. Et donc, il y a là comme la volonté de rendre visible l'amour et la grâce de Dieu. Et donc, le Christ est sacrement à cause de ce qu'il est, de son être, de l'aspect ontologique. Il est le Fils de Dieu, mais aussi de ce qu'il fait, de son action éthique, de ses actes. Il est le signe que Dieu sauve, que Dieu veut le salut de l'humanité. Et donc, dans ce prolongement de l'action de Dieu dans le monde, inauguré du point de vue sacramentel, je dirais, grâce au Christ, c'est l'Église qui poursuit donc cette action. C'est à son Église, ses apôtres d'abord, que le Christ confie son message. Et donc, effectivement, l'Église de Dieu se présente, ou pourrait être définie comme une communion à la volonté salvifique de Dieu, répond à cette volonté salvifique de Dieu. Et donc, elle est le lieu du mystère d'alliance de Dieu avec son peuple. Elle est la médiation elle-même de ce salut, de cette fidélité. Et donc, vous l'avez sûrement travaillé ou entendu pendant le cours d'ecclésiologie, la communauté chrétienne devient signe de communion voulue par Dieu. Et la communion, justement, s'actualise, entre autres, par la parole et par les rites. Et donc, une parole qui devient, donc une parole humaine qui devient parole de Dieu, qui se manifeste, qui est au cœur, cette parole des rites, des sacrements de la foi. Et donc, c'est l'Église qui proclame dans l'esprit la parole qui la fonde, et en ce sens, les sacrements de la foi sont inséparables de la parole. Louis-Marie Chauvet, une fois de plus, le théologien français, a cette expression très intéressante que je vous rapporte. Il dit « les sacrements sont un précipité de la parole ». Un peu une image chimique, mais vous voyez, ce qui précède les sacrements, c'est la parole de Dieu qui crée, qui anime, qui dynamise. Et les sacrements montrent, disent cette parole autrement, par des gestes. Mais, si le Christ est le sacrement primordial, l'Église est le sacrement principal, au sens qu'il poursuit, l'Église poursuit l'œuvre du Christ, l'homme, c'est-à-dire nous, chaque homme, chaque femme, l'humanité, devient et le sacrement existentiel. C'est-à-dire, est-ce que vous y avez jamais pensé? Paradoxalement, Dieu ne peut rien sans nous. Dieu ne peut rien sans nous. Dieu tient tellement à nous qu'il nous attend et qui demande que nous vivions devant lui avec ce que nous sommes, comme nous sommes, vous voyez. Et donc, notre vie, pourquoi on appelle ça sacrement existentiel, notre vie est un signe, effectivement, de cette relation que l'on entretient avec Dieu. Et le chrétien, effectivement, devient en ce sens un signe sacrement du Christ et de l'Église, à nouveau à cause de son être et de son action. À son tour, après le Christ, devient signe sacrement du Christ et de l'Église. Quand on dit l'homme sacrement existentiel, est-ce que vous y réfléchissez? Je vous propose de réfléchir à ça. Si vous pensez aux sacrements très rapidement, vous comprenez très vite que les sacrements passent par notre corps, que notre corps est fondamental pour les sacrements. Il n'y a pas de sacrement sans corporéité humaine, sans notre vie. Tout passe par notre corps. Mais l'homme, si nous y réfléchissions, est vraiment très peu de choses quand on le pense à l'intérieur du cosmos, de l'univers. C'est un aspect, l'importance du cosmos, de la création. Ce sont des aspects que le pape François a soulignés dans sa lettre, dans son encyclique Laudato Si. Donc, l'importance de la création comme parole et signe, qui fait partie de ce mystère. Les pères de l'Église ont toujours souligné l'importance de la création comme signe de l'amour de Dieu, avant même qu'il y ait les sacrements, avant même qu'il y ait... Voilà, la création nous parle de manière très claire. Et donc, la création, effectivement, doit être interprétée et possède une force sacramentelle. Et comme par hasard, la création est présente dans les sacrements, ne fût-ce que de manière symbolique. Mais pensez à l'eau, pensez au pain, pensez au vin, pensez à l'huile, pensez aux paroles d'alliance que l'on peut prononcer lors du mariage, une parole de réconciliation qu'on peut prononcer lors de la réconciliation. Mais tout cela dit bien la présence du cosmos ou le fait que le cosmos entoure et englobe cette action sacramentelle. D'où les deux propositions finales. D'un mot, réfléchir sur le fait que les sacrements, effectivement, trouvent leur place, sont mis en œuvre par l'Église, dans l'Église, dans la mesure où ils sont des signes privilégiés qui se concentrent dans la parole et dans l'action. Le sacrement est une parole et il y a là une sacramentalité de la parole. Benoît XVI, dans sa lettre post-synodale sur la parole de Dieu, Verbum Domini, la parole de Dieu, a parlé longuement et de manière très importante du point de vue théologique de la sacramentalité de la parole. Et donc, la parole de Dieu et les signes sacramentels ou les sacrements sont deux aspects d'une même médiation salvifique. Dieu nous sauve par la parole et par les signes sacramentels. Et donc, le sacrement est un signe sensible, il est une action. D'où quelques propos concernant la nécessité des sacrements, je le dis par des gros mots que j'essaie de développer, anthropologique, vous l'avez compris, Dieu ne peut rien sans nous, et il ne peut que passer par notre corps, il peut interpeller notre corps, voyez. Ou pour le dire autrement, vous le savez, un bébé qui n'est pas soigné, auquel on ne parle pas et qui laissait pour son compte, perd la vie. Donc notre corps est sensible à la relation. Donc il y a une nécessité anthropologique. Mais il y a une nécessité sotériologique. Je dis toujours, la psychanalyse nous a fait comprendre que nous sommes des êtres manquants, que nous déclinons dans notre vie, que nous ne sommes pas capables parfois de relations, que nous avons des manques, eh bien, peut-être que Dieu nous sauve de cela. Dieu prend en compte cette fragilité. Il y a une nécessité pneumatologique au sens que toute action sacramentelle est toujours dynamisée par l'esprit. Ecclésiologique, nous venons de le dire, c'était lié à l'Église, parce que ces sacrements ne sont pas une action individuelle au sens négatif du terme, mais plutôt personnelle en Église, en communauté, et puis cosmique, on vient de le dire. D'où la structure et l'essence des sacrements, de la sacramentalité. Il y a des éléments structurels de la sacramentalité qui disent, qui connotent la sacramentalité. Il comporte un aspect divin et humain. Il comporte une immanence, une transcendance. Et ils sont très ancrés dans le créé, immanent, mais très, ils nous ouvrent vers Dieu, ils sont transcendants. Ils nous montrent le visible et l'invisible, comme le disait saint Augustin. Il définissait ainsi les sacrements, ce sont des signes visibles d'une réalité invisible, signes visibles d'une grâce, d'une réalité invisible. Et donc, ils nous permettent de voir dans le mystère. Et donc, à nouveau, il y a des principes de l'essence des sacrements ontologiques liés à notre être ou pour notre être, anthropologiques, on vient déjà de l'expliquer, et théologiques, parce qu'ils nous font rencontrer et faire expérience de Dieu lui-même. Voilà cette introduction rapide pour vous donner quelques fondements, quelques repères, mais je voulais juste vous mettre dans l'horizon de ce que nous venons de commencer, et vous verrez que tout ce que nous avons essayé de dire ce soir va se confirmer ou être éclairé par les différents sacrements que nous allons effectivement prendre en compte à partir de la semaine prochaine. Et ceci est une bande d'annonces. La semaine prochaine, nous travaillerons les sacrements de l'initiation à partir de leur ancrage historique, qui sont les signes qu'on faisait pour entrer dans la vie chrétienne au moment du Nouveau Testament et comment ils se sont développés au long de l'histoire. Donc, ce sera le sujet que nous allons traiter à partir de textes du Nouveau Testament et des pères de l'Église, de la tradition ecclésiale antique, la prochaine fois, donc le 17 janvier, n'est-ce pas? Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite une bonne nuit, un bon repos, réparateur.
À vous aussi.
Mais ça va revenir la fois prochaine.
À la fois prochaine. Au revoir à chacun, à chacune.
Au revoir.